Salut à tous, bienvenue sur Actu Opinion, le podcast de Kanigi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des jeunes gens très énergiques, très motivés, qui ont, à l'égard des gens sur les réseaux sociaux, à l'instar des gens sur les réseaux sociaux ces derniers temps, m'ont posé quelques questions. Donc, le format est un peu différent. Je reçois dans mon petit studio mon neveu, Ghislain, ingénieur en logistique et transport. Ensuite, il y a son frère, Benjamin, qui est technicien en agriculture. Et notre technicien studio, c'est Malik, mon neveu aussi, qui est encore étudiant, qui va nous faire tout ce qui est partie technique aujourd'hui. Et nous allons parler de la problématique du riz en Côte d'Ivoire.
La première question qui nous vient à l'esprit, que se passe-t-il dans le secteur du riz en Côte d'Ivoire?
Merci Ghislain pour la question. Effectivement, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire ou bien la presse, vous allez vous rendre compte que tout le monde se plaint de l'augmentation du prix du riz. Mais lorsque on constate une augmentation du prix du riz dans les supermarchés, ça veut dire que c'est la conséquence d'actions ou bien de décisions qui ont été prises il y a quelques semaines ou bien des mois à l'avance. Parce que ce riz que vous voyez dans les supermarchés, il vient par bateau en Côte d'Ivoire et ça prend des semaines. Donc les prix ont augmenté, les gens se plaignent. Et nous sommes en début du mois de septembre. Le riz local, qui est majoritairement produit dans les plateaux en riz pluvial, n'est pas encore mûr et la production de l'année dernière commence à faiblir. Donc, au niveau du riz local aussi, il y a une certaine rareté. Et sur le riz importé, les prix sont en train de flamber. Donc, si vous regardez le riz long grain, les sacs que les gens achetaient à 15 000, 16 000 sont passés à 18 000, parfois 19 000. Nous en avons eu la semaine dernière à Korogo même, à 21-23
000. Merci Kanigi Yomé. J'aimerais savoir pourquoi les prix ont-ils augmenté?
Alors Benjamin, les prix du riz ont augmenté parce que le riz, en Côte d'Ivoire, le commerce est libéral. L'économie de la Côte d'Ivoire est une économie dite libérale. Et le prix du riz est soumis à la loi de l'offre et de la demande. C'est une loi qui fait que lorsque la demande d'un produit augmente plus que l'offre, le prix va augmenter. À l'échelle mondiale, l'Inde fournit 40% des exportations de riz. Et ce pays-là, d'Asie, qui a décidé de juguler l'inflation en réduisant les exportations de riz blanc. Du coup, à l'intérieur de l'Inde, ils vont avoir plus de stocks, donc les prix vont être maîtrisés. A contrario, nous qui dépendons de leur riz, nous allons nous retrouver avec moins de riz à acheter dehors. C'est pour ça que les prix ont flambé, vu que entre ces prix à l'international et le prix du consommateur, il n'y a pas de mécanisme direct d'intervention. L'État n'intervient pas pour subventionner ou bien juguler les prix. Voilà pourquoi est-ce que le prix du riz a augmenté. Parce que, toutes choses étant égales par ailleurs, là où nous achetions, ça a augmenté parce que l'Inde est sortie du marché des exportations.
Alors là, maintenant la question que me pose, pourquoi nous importons du riz et notre riz local?
C'est bien, c'est intéressant, oui. Double question, parce qu'on se demande, la Côte d'Ivoire a beaucoup de terre, nous avons des bas-fonds, il pleut, pourquoi est-ce que le riz local, on ne le consomme pas? La réalité, c'est que nous importons du riz parce que notre production locale ne suffit pas. La Côte d'Ivoire consomme actuellement, hein, c'est des chiffres qui évoluent, il y a plusieurs sources, mais beaucoup de sources parlent de 2,6 millions de tonnes de riz chaque année. Les habitudes alimentaires ont changé. La population a une croissance forte et soutenue. Donc, le riz reste l'une des denrées les plus accessibles pour nourrir une famille en Côte d'Ivoire. Et quand on regarde la quantité de riz qui est consommée, la production locale qui est autour de 1,3 million de tonnes ne permet pas de suffire pour un besoin de 2,6 millions de tonnes. Donc, c'est parce que notre production locale ne suffit pas.
Merci Ghislain Yo d'avoir posé cette question. Mais j'aimerais savoir pourquoi, j'ai l'impression que l'État ne fait rien.
Oui, on peut avoir l'impression que l'État ne fait rien quand on n'a pas connaissance de tout ce qui se fait dans le secteur. Vu que c'est le riz est géré par le ministère de l'Agriculture pour tout ce qui est de la production et autres. Mais il y a la commercialisation, c'est généralement quand les gens vont débourser de l'argent qu'ils voient le problème. au niveau des supermarchés. Donc, il y a le ministère du Commerce qui va intervenir quelque part. Mais on ne peut pas dire que l'État ne fait rien. La production locale de riz en Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Ça, il faut le dire. Par exemple, en 2010, la production était autour de 780 000 tonnes de riz par an. Aujourd'hui, on est passé à 1,3 million. Cette année même, le ministère annonce jusqu'à plus de 2 millions de tonnes. Donc, c'est une forte croissance. Mais la réalité, c'est que la croissance de notre production de riz est inférieure à la croissance de nos besoins. Et dans ce secteur stratégique, je peux vous dire que l'État ne peut pas rester les bras croisés. Parce qu'une rupture de stock sur le riz en Côte d'Ivoire, au bout de quelques semaines, ça va créer des troubles sociaux et l'État ne peut pas laisser. Il y a eu beaucoup d'interventions. Hein. On est jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vu. Nous-mêmes, on n'a pas tout vu. Nous, aujourd'hui, qui avons 40 ans, on n'a pas tout vu. Mais la Sauderie, c'était une société d'État qui a été mise en place pour la production de riz. Après, il y a eu la SACMACI, qui était la structure d'État qui était là pour la mécanisation de la production de riz et tout ça, mécanisation, blanchiment, production. Et après, on a eu la SACMACI qu'ils ont fusionné avec d'autres structures. On a eu l'ANADER, ça ne fonctionne pas pareil. Il y a eu l'ONDR, l'Office national de développement de la riziculture. Après, il y a eu l'ADERI, Agence de développement de la riziculture. Et même, on a eu un ministère pour la promotion de la riziculture. Donc, c'est autant d'initiatives du gouvernement. Et on ne peut pas dire que l'État ne fait rien. Ces dernières années, il y a eu de nombreux bassins qui ont été aménagés. C'est des zones de production des bas-fonds où on va tracer des canalisations pour gérer les flux d'eau. Il y a eu de nombreux bassins. Vous allez à Mbayakro, vous allez dans la zone de Yamsoukro, vous allez au nord, à l'ouest, au sud. L'État a fait de grosses choses. Mais il y a certains bassins qui ont été aménagés par l'État à coût de milliards et qui ne sont pas exploités. C'est les herbes qui sont là-bas. Donc, on ne peut pas s'asseoir et dire l'État ne fait rien. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on voit, mais il y a beaucoup d'initiatives, comme je viens de les citer. On ne peut pas aller dans tous les détails. Pour plus d'informations, je vous recommande d'aller regarder sur le site du ministère de l'Agriculture ou le site de l'ADERI ou comprendre un peu comment est-ce que ça a évolué. Actuellement, nous sommes en plein dans l'exécution de la stratégie nationale de développement de la riziculture. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Même si ça ne suffit pas, il y a des choses qui sont faites.
Alors là, la question qui me pose, pourquoi cette situation?
Écoute, la situation, elle est complexe. Et le drame, en fait, c'est qu'on se retrouve avec un problème à plusieurs variables, avec des composantes, disons, politiques, économiques, sociologiques. Et il y a de nombreux défis. Les gens pensent qu'il faut juste faire une seule chose et puis c'est réglé. Quand vous avez un problème aussi complexe, il ne faut pas penser qu'une solution univariable va régler le problème. L'un des points fondamentaux qui nous gêne, le problème du foncier rural, le professeur Mamadou Coulibaly, il en parle énormément. Si vous voulez faire 1000 hectares de riz en Côte d'Ivoire, le premier défi, c'est de trouver des surfaces, mais aussi et surtout la documentation fiable qui gère la propriété. Si vous n'avez pas la propriété sur des terres que vous voulez lancer une production à grande échelle, vous allez avoir des soucis parce que le soutien du système bancaire, si vous êtes en train de faire des grosses parcelles sur des terres qui ne vous appartiennent pas, vous n'avez pas de documents, les banques ne vont pas vous accompagner. Donc, il y a un problème fondamental qui est là. Le deuxième problème que moi je vois, c'est que nous avons une agriculture qui dépend à 80% de la pluie et 20% seulement dans les bas-fonds, dans les zones irriguées. Donc, dans les plateaux, l'agriculture en zone pluviale ne produit qu'une seule tonne de riz par hectare par an. Là où des pays vont produire jusqu'à 8-12 tonnes par an. Donc ça, c'est un problème. Regardez ensuite le faible niveau d'utilisation des engrais et puis des semences de qualité. Parce que les agriculteurs qui sont là, ils font de l'agriculture de subsistance. Ils font pour sa famille. Pensez à votre grand-père, mon papa. Ce qu'il fait, il fait de grandes superficies de riz, mais ce n'est pas pour commercialiser, c'est pour sa consommation. Donc, si on compte sur ce profil d'agriculteur pour nourrir tout le pays et la vaste majorité des citadins, on va avoir un problème. Ensuite, il y a des équipements agricoles très inadaptés. Pour le moment, les gens utilisent encore la main ou bien la culture attelée avec les bœufs. À la limite, ils ont quelques outils rudimentaires. Mais en face, on a des gens qui ont accès à toute la technologie. Donc, vous voyez. Donc, il y a aussi d'énormes pertes post-récolte. Lorsqu'on récolte le riz, avant d'arriver à le blanchir, il y a des pertes qui se font parce qu'on utilise encore des méthodes archaïques. Et la commercialisation du riz en Côte d'Ivoire, elle est encore informelle. Le circuit, il est inapproprié. Si vous cherchez du riz local, vous ne pouvez même pas me citer une marque qui est connue par 10% des Ivoiriens. C'est impossible. On a trop de marques. Chacun se lève, il crée son initiative. Donc, cette fragmentation, elle ne favorise pas le développement de la production locale ou bien le développement de structures solides qui vont devenir des marques de référence de riz local en Côte d'Ivoire. Et puis, enfin, j'ai toujours dit le manque de cohérence parce que quand on regarde aussi les politiques de l'État, parfois on commence des choses, on ne va pas jusqu'au bout et on va recommencer d'autres. Donc, ce manque de cohérence, ça gêne un peu dans la politique de production de riz. Donc, voilà un peu un tableau. C'est très résumé hein, parce que dans le détail, c'est beaucoup plus profond que ça. OK?
La question précédente à laquelle tu viens de répondre, tu as parlé uniquement que des problèmes. Mais est-ce que tu as des solutions aux différents problèmes que tu viens d'énumérer?
Bon, écoute, c'est intéressant, c'est une grosse question. Je ne peux pas prétendre trouver toutes les solutions à la problématique du riz en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous ici des intellectuels et toi, tu es dans l'agriculture, tu vois un peu déjà comment, tu vois déjà comment c'est compliqué de faire le riz. On a cité une partie des problèmes auxquels les gens ils font face, hein. L'accès aux semences, l'accès à la mécanisation, la commercialisation post-récolte. Il y a même le problème des oiseaux qui fait que certains disent qu'ils ne vont pas faire de riz. Parce que quand ils font le riz, au moment où ça mûrit, il faut trouver le moyen de faire le gardiennage. Sinon, on perd jusqu'à un tiers de la production et tout ça. C'est des problèmes qui sont là. Donc, pour moi, de ma petite expérience en tant que fils d'agriculteur, mais aussi de mon travail chez Yara, je pense que il faut que l'État gère ce secteur un peu comme on a géré le coton. C'est-à-dire, on a libéralisé en installant des structures privées fortes qui font l'encadrement, si on veut continuer avec le modèle des petits producteurs. Donc, l'État sort, l'État met le privé en jeu pour faire l'encadrement des producteurs. Donc, ces structures vont prendre les engagements pour avoir les intrants, les semences de qualité, le blanchiment, et vont récolter le riz et ensuite commercialiser. Ça va permettre de réduire le nombre de variétés de riz locales et aussi permettre d'avoir des marques qui vont commencer à sortir. Donc ça, c'était une approche du ministère de la promotion de la riziculture. Il faut régler le problème du foncier rural. On ne peut pas, et ça se touche d'autres secteurs, on ne peut pas avoir une agriculture, disons, rentable à grande échelle si on n'a pas des documents fiables pour les qu'on exploite. La politique agricole, il faut une politique cohérente de mécanisation dans la durée. Parce qu'on commence des initiatives ici et là et après ça n'aboutit pas. Il y a une anecdote qui m'a fait rire. En 2019, l'État a donné des tracteurs agricoles à des filières, par exemple. C'est de la mécanisation. Mais les tracteurs, c'est le haut du sommet. Il y a de la mécanisation intermédiaire. Il y a des petites machines qui coûtent moins cher. Un tracteur peut permettre d'acheter 10 petites machines pour améliorer le rendement de certains producteurs. Mais si on va sur les gros tracteurs, ça coûte cher. Mais l'anecdote, c'est que les tracteurs remis en 2019 aux filières agricoles sont arrivés sur le terrain en 2021. Parce que entre le temps de faire les inaugurations, les transmissions et les papiers, c'est en 2021 qu'ils ont envoyé sur le terrain. Et quand c'est arrivé, ça ne démarrait plus. Donc, il fallait appeler le fournisseur pour venir faire redémarrer les machines. Et dans tout ce temps-là, il y a des machines qui ont disparu, ne me demandez pas pourquoi. Donc, ça vient dans la partie mécanisation. Les usines de blanchiment qu'on a installées, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Comment est-ce qu'on a attribué les usines qui font le blanchiment du riz? Je dis non, il faut des appels d'offres transparents lorsqu'on veut faire des choses. Même les centres de production de semences qu'on est en train de vouloir mettre en place, il faut mettre en place des centres de production de semences de riz améliorés en Côte d'Ivoire. Et il faut mettre des spécialistes ivoiriens, des structures ivoiriennes solides financièrement qu'on va accompagner. On a des banques en Côte d'Ivoire, il faut les accompagner pour produire de la semence de qualité. Et il faut permettre au secteur privé d'agir. Quand on fait des appels d'offres solides auxquels les gens viennent postuler avec des garanties qu'ils ont mises en place, on va se retrouver avec une amélioration de la production. Donc voilà un peu quelques solutions que je suis en train de proposer, sorties de la production de subsistance pour aller vers une production industrielle intermédiaire. Je voudrais vous remercier pour vos questions.
Merci aussi de nous avoir plongé dans une discussion approfondie qui nous permet de comprendre la problématique et les subtilités de la problématique du riz en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions.
D'accord. Je voudrais vous remercier pour votre temps. Le format me plaît. J'espère qu'on aura le temps d'aborder d'autres sujets. Je voudrais remercier Malik qui va s'occuper de la post-prod. À nos auditeurs, merci d'avoir été là. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye girl, I'm so tired of fighting. I can't do because you wild. No ties, baby, I've been fine. Dressed up, yeah, I'm doing style. I can't lose my time. Kind of money, and I ain't stopping. Treat you with it like a nigga poppin'. Bye girl, I'm so tired of fighting. I can't do because you wild. No ties, baby, I've been fine. Dressed up, yeah, I'm doing style. Kind of money, and I ain't stopping. Treat you with it.